À la une ce soir.
Faut pas que la folie triomphe sur l'espoir. C'est la meilleure chose à faire. Collez-vous.
Les chefs de parti à Amqui, un réconfort pour la communauté.
C'est le fun que tous les partis soient ensemble, unis autour de vous.
Ça soulage un peu, oui. Là, on sent moins de ça.
Fonderie Orne, Québec, serre la vis à Glencore et déplace 200 familles.
1-0 pour Glencore. On a choisi l'économie. On avait déjà des questionnements, nous, c'est quoi le prix de notre santé, mais on a compris aujourd'hui.
Incendie majeur dans le Vieux-Montréal.
Il y avait, des flammes énormes.
Et les gens sautaient en bas de l'immeuble pour évacuer.
Au moins une personne manque à l'appel et une dizaine de blessés. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon jeudi. On a vu des larmes, mais aussi des sourires aujourd'hui dans les rues d'Amqui, où le premier ministre et tous les chefs d'opposition se sont unis pour aller réconforter les citoyens. Ils étaient plusieurs à vouloir rencontrer les politiciens 3 jours après cette tragédie qui a fait, je vous le rappelle, 2 morts et 9 blessés. Le deuil, bien sûr, sera long. La communauté a vécu tout un traumatisme, vous le comprendrez. Et cette visite semble quand même avoir eu l'effet d'un vrai baume pour les Amkouiens. Laurence Royer y était.
Et hier, j'ai pensé à rendre une traînée de pieds dans ma tente. Va virer dans la vitre, on revient. Mais... Ah, c'est dur.
C'est ici, sur ce trottoir, où des piétons ont été frappés par un homme dans son véhicule, que des citoyens d'Amqui et des politiciens sont venus se recueillir.
Oh, oui, il y a beaucoup de monde. Hein. Ça fait du bien d'avoir du monde demain. Là, tu te dis, au moins, il n'y a pas de choc.
C'est des amis à moi, tu sais. Fait que c'est, moi, j'ai resté avec sa femme à côté de la captive tant que les ambulanciers ne nous ont pas donné le OK, là. On aurait aimé faire plus, mais...
Vous étiez où, quand c'est arrivé?
On travaille ici.
OK.
Fait que je l'ai entendu dans mon bureau.
Sorti. Courage, hein, parce que...
C'est l'oncle à quelqu'un. C'est la blonde du meilleur chum à notre chum. Puis c'est... Ça vient qu'on connaît tout le monde quand même, là. Puis c'est vraiment triste pour une population qu'on... On a tant de douceur dans notre vallée.
De mon ami, il y avait son mari... Il y avait sa fille et ses 2 enfants.
Ah, il prenait une marche comme ça?
Lundi
après-midi.
Moi, j'ai 5 membres de mon ami qui ont été accidentés, impliqués dans l'accident. Je ne pouvais pas m'empêcher de venir ici ce matin. Là. Je pars de Sainte-Félicité. Ça fait du bien de rencontrer les députés aussi puis de leur en avoir parlé.
C'est important qu'ils viennent nous voir pour... nous appuyer.
Faites quelque chose.
Courage. Courage. Je suis d'accord. Je me pose la question. J'appuie Laval. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour la santé mentale?
Amqui cette semaine, Laval le mois dernier. Pour le premier ministre et les chefs des partis d'opposition, ça soulève un besoin d'agir.
On se sent un peu coupable. En tout cas, moi le premier, en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui, on va ajouter du financement pour la santé et les services sociaux et la santé mentale. C'est important de continuer d'investir. Bien honnêtement, aussi, le défi, que je le disais, c'est qu'il y a des budgets actuellement qu'on n'arrive pas à dépenser. C'est assez spécial de dire ça, parce qu'il y a des postes qui sont affichés, mais pas comblés.
On se demande ce qui se passe. On se demande d'où ça vient. On en échappe. Prévention, comment on peut mieux faire? Pourquoi des enjeux de haine et de santé mentale de manière aussi aiguë? Et quelle solution? Attendez-vous à ce que ça occupe beaucoup d'espace? Moi, je sens que c'est ma responsabilité.
Parce que là, ça fait 2 fois en 2023 que les chefs de parti s'unissent pour faire des condoléances. J'ai pas envie qu'on le fasse une 3e fois.
On en parlait hier. Québec a présenté aujourd'hui aux citoyens de Rouyn-Noranda son plan pour forcer la fonderie Orne à diminuer ses émissions de polluants. Simon, donc, le gouvernement a confirmé qu'il allait demander finalement aux résidents les plus près de la fonderie de déménager.
Oui, 200 ménages qui sont carrément les voisins de la fonderie Orne. La ministre des Affaires municipales qui a dit aujourd'hui qu'on ne forcera pas personne, que ça va se faire progressivement. Donc, la création, vous allez le voir à l'écran, là, de cette zone tampon, dont les coûts. Là. Et la création vont être assumés par par Glencore. C'est ce à quoi ils se sont engagés. Ce qui a été annoncé aujourd'hui, bon, c'est l'ajout, entre autres, de nouvelles stations de contrôle ou stations d'échantillonnage. Vous allez voir aussi où seront donc disposées ces nouvelles stations afin d'avoir une meilleure idée du taux de particules dans l'air, des polluants aussi qu'on trouve dans l'air. Le ministre de l'Environnement demande à la fonderie Orne d'atteindre un seuil d'émission d'arsenic de 15 nanogrammes par mètre cube, mais on lui donne jusqu'en 2027 pour atteindre cette cible-là. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, on lui a posé la question à savoir est-ce que vous pensez vraiment que Glencore a à cœur la santé des soins de Rouen?
C'est une entreprise qui s'est collée jusqu'à maintenant aux exigences qu'on lui imposait. C'est comme poser la question de savoir est-ce que les gouvernements précédents ont suffisamment joué leur rôle. Ma réponse sera non. Mais par rapport aux éléments des conventions qui leur étaient imposées, ils les ont respectées. Cependant, ils étaient trop laxistes. Ce qui vient changer de façon assez importante avec la présente autorisation.
Et Simon, il faut dire que pour les groupes de citoyens, l'attestation ministérielle ne va pas assez loin à court terme pour protéger la santé des gens.
Oui, parce que pour eux, les normes qui sont demandées demeurent trop hautes et le temps alloué, surtout pour atteindre ces objectifs, c'est trop long. Et pour ce qui est des déménagements, là, dont on parle beaucoup, et des ententes entre Glencore et des citoyens qui sont touchés par la création de la zone tampon, il y a la porte-parole du comité citoyen Arrêt qui craint que certains de ces citoyens se fassent avoir par la multinationale.
C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments de transparence qui seraient importants. Comme on parle des achats de maisons, de déménagement, moi, je pense qu'il devrait y avoir un soutien indépendant payé par Glencore pour que les gens aient un soutien en droit, en travail social, en avocat, là, pour que leurs besoins soient vraiment évalués, puis la réalité de leur... Je ne pense pas qu'ils vont avoir ce qu'il faut. Si on ne fait pas ça, les gens du quartier, un à un, ne pourront pas, défendre, ou en tout cas défendre leurs droits de façon adéquate.
Et Simon, maintenant, le propriétaire Glencore a réagi?
Oui, en point de presse, donc vers la fin de la journée, là, Glencore qui considère que les cibles qui sont dans l'attestation sont réalistes, qu'elle sera en mesure de les respecter. Le travail serait d'ailleurs déjà commencé là-dessus.
Les efforts sont mis là. On a déployé toutes les équipes. Les projets sont en place. Ils sont déjà mobilisés. On a fait part de l'avancement des différents projets, entre autres. Les efforts sont mis, les équipes sont mobilisées, autant au niveau de l'équipe interne, mais les gens qu'on implique à l'extérieur, les consultants, les entrepreneurs, le tout est lancé.
Réaction également de la santé publique, la Direction nationale de la santé publique et la Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue. On se dit satisfait de ce qui a été annoncé aujourd'hui, que ça devrait pouvoir protéger la santé des citoyens de Rouen. Bref, tout le monde est d'accord, sauf les citoyens de Rouen.
Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Justement, on va aller faire un tour en direct de Rouyn-Noranda. Je m'entretiens avec la mairesse Diane Dallaire. Bonsoir, Mme Dallaire.
Bonsoir.
Tout d'abord, comment réagissent vos citoyens à tout ça?
Les opinions sont partagées. Les citoyens du quartier, pour certains, sont d'accord à quitter l'endroit. D'autres, moins, mais... Il n'en demeure pas moins que c'est une recommandation des experts de la santé publique de distancer. Les résidences sont trop près de l'industrie. Aujourd'hui, on ne pourrait plus voir ça. Là. Alors, ça prend une saine distance séparatrice entre l'industrie et les propriétés.
Mais comment la ville va pouvoir aider les citoyens touchés par la création de cette zone tampon?
C'est certain que nous, on l'a dit aujourd'hui, on veut vraiment que les gens sachent qu'on va jouer notre rôle de leadership. On va vraiment supporter, accompagner les citoyens dans ce processus-là. On veut le faire en collaboration avec les citoyens, en toute transparence. J'entendais tantôt parler de transparence, mais c'est clair.
Pourquoi les gens ont l'impression qu'il y a eu un manque de transparence, qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés, qu'on n'est pas à l'écoute de leurs besoins?
Certains disent ça, d'autres non, comme je vous dis, mais c'est sûr que la décision de la zone tampon, C'était dans l'air, c'était sur toutes les lèvres. On entendait parler de la zone tampon, les citoyens aussi. Mais la décision vient d'être prise. Et nous, dès aujourd'hui, on a adressé une correspondance aux citoyens. J'ai adressé des messages téléphoniques aux citoyens. On veut vraiment communiquer avec chacun des citoyens. On veut entendre leurs besoins, leurs préoccupations. On veut les accompagner dans le processus. Clairement, on est au rendez-vous avec les citoyens, là, c'est clair. Pour nous, c'est très, très, très important.
Mais qu'est-ce que vous allez faire avec les citoyens qui ne veulent pas quitter la zone tampon?
On demeure confiant que ça va bien se dérouler. On a un souci vraiment de le faire en collaboration avec les gens, comme je vous disais. On a déjà identifié certains endroits où pourraient être construits des immeubles à logement. Bon, c'est sûr qu'il faut penser aussi au logement préabordable, au logement social, tout ça dans le collimateur. On veut donner le choix. On n'a pas dit on prend les gens du quartier, on les envoie dans un autre quartier. On veut vraiment donner le choix à ces citoyens-là, selon leurs besoins et tout ça. Et puis moi, je suis confiante que puis il y aura des projets de verdissement de cette zone-là éventuellement. Puis ça sera fait en collaboration avec les gens du quartier.
On n'est pas rendu là.
Je suis certaine qu'au... Non, mais moi, je demeure... Oui. Non, sincèrement, je suis certaine qu'au terme de tout ça, on sera un leader québécois en termes de verdissement puis d'aménagement pour la qualité de vie de nos citoyens.
Parfait. Merci beaucoup, Mme Dallaire, d'avoir été avec nous ce soir.
Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. On vient chez nous maintenant. Un incendie majeur a détruit tôt ce matin un immeuble patrimonial dans le Vieux-Montréal. Un brasier si violent qu'un locataire a même dû sauter d'une fenêtre au deuxième étage pour échapper à la mort. 9 personnes ont été blessées. Marie-Michel, il y a une personne qui manque toujours à l'appel?
Oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il pourrait y en avoir d'autres. Pour l'instant, une personne manque à l'appel. Il faut comprendre que le bâtiment là, derrière moi, qui est complètement ravagé, abritait plusieurs appartements de type Airbnb. Alors, présentement, les autorités ont beaucoup de difficultés à identifier les occupants à l'intérieur du bâtiment. Et Marie-Christine, tu parlais d'une personne qui a sauté du deuxième étage pour se sauver des flammes. Je ne sais pas si vous voyez la voiture qui est derrière moi. Bien, la personne aurait sauté sur le toit de cette voiture-là. Alors, évidemment, la personne a été blessée. Elle fait partie des 9 personnes blessées transportées à l'hôpital. Sur ces 9 personnes-là, 3 ont subi des blessures un peu plus sérieuses. Pour l'instant, l'enquête est toujours dans les mains du service incendie de la Ville de Montréal. On attend présentement des ingénieurs en bâtiment parce que le site n'est plus sécuritaire pour poursuivre les recherches. Ici, évidemment, il y a des preuves comme quoi il y a un corps qui se trouve à l'intérieur. L'enquête sera transférée du côté du SPVM. Voici mon reportage.
Les premières unités sont arrivées sur les lieux, se retrouvaient avec des personnes qui étaient effectivement aux fenêtres. On peut dire 4 sauvetages par les pompiers au niveau des fenêtres avec des échelles portatives. Il y a 2 personnes qui ont été évacuées aussi par les échelles aériennes. Fait que c'était une situation qui était assez importante ou dramatique quand les pompiers sont arrivés. C'est pour ça qu'on a monté rapidement en alarme. 9 personnes qui ont été transportées en centre hospitalier, la plupart pour des brûlures aux mains et au visage. 3 personnes sont dans un état plus sérieux avec des brûlures au niveau des voies respiratoires.
Nous, on habite devant l'immeuble. Et on était réveillés très tôt ce matin, vers 5h20 environ. Et les gens sautaient en bas de l'immeuble pour évacuer.
C'était épouvantable.
Une personne était suspendue sous son air climatisé à l'extérieur, ou en tout cas un équipement qui était là. Puis les pompiers sont allés la chercher, évidemment, sont allés à sa rescousse. Ce qui nous a impressionnés, c'est qu'il y a des gens qui sont restés nu-pieds de l'immeuble, qui avaient sauté en bas, sont restés nu-pieds pendant au moins une demi-heure, 40 minutes. Mon épouse est même allée leur porter des couvertures puis des chaussures.
Il n'aurait pas fallu qu'il soit dans la bâtisse, parce que, disons que pour évacuer, c'est pas évident.
Pourquoi?
Il y a certains logements qui n'ont pas de sortie de secours.
Votre ami doit être en état de choc, là, je veux dire.
Non, mais oui, il a tout perdu, vraiment.
C'était fou de voir tous les pompiers, les jets d'eau. C'était inimaginable, parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Tout le quartier jusqu'à McGill a été bloqué au point de vue électricité. Puis on ne sait pas, si on n'avait pas eu tous ces instruments, ça pourrait être très grave, ça aurait pu se propulser à côté. On est chanceux au Québec d'avoir des pompiers comme ça.
Surtout pour passer le message que les pompiers, quand ils sont arrivés sur les lieux, c'était un feu très intense. Une alerte 5, qui veut dire plus de 100 pompiers. Qui ont quand même fait peut-être près d'une dizaine de sauvetages là, pour des gens qui ne peuvent plus sortir par les sorties de secours. Alors, ils ont sauvé des vies aujourd'hui. Je voulais vraiment les féliciter et les remercier pour ça.
On vient d'avancer l'heure, alors ce serait important de
vérifier votre avertisseur de fumée qu'il soit fonctionnel. Ça sauve des vies.
Donc, pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui aurait pu causer ça. On n'a aucune piste. Il n'y a pas d'accélérant qui a été trouvé. Il n'y a pas... pour expliquer la rapidité de la propagation, là, non?
Ça, on attend, justement. On va attendre que vous pouvoir rentrer les enquêteurs sur place, que ça soit sécuritaire, pour qu'ils puissent pouvoir faire leur travail proprement.
Ça y est, c'est officiel. Le couperet est tombé. Plus de TikTok dans le réseau de la santé.
J'aimerais dire à tous un grand merci d'avoir été là, mais malheureusement, mon aventure TikTok se termine.
Les médecins québécois quittent TikTok à la suite des interdictions gouvernementales pour des raisons de sécurité. Fanny, donc, ils craignent maintenant que la désinformation prenne toute la place, finalement, sur l'application.
Oui, eux comprennent que les CIS leur interdisent désormais de publier sur la plateforme. On y reviendra, Marie-Christine, mais j'ai effectivement parlé avec les docteurs Joseph Daïn et Mathieu Vallée-Nadeau, qui, eux, étaient très, très populaires sur TikTok. Il y a certaines de leurs vidéos qui avaient plus de 500 000 visionnements. C'est quand même pas banal pour des vidéos de vulgarisation scientifique. Et eux, leur crainte, bien, c'est vraiment ça. Il y a eu tellement de désinformation pendant la pandémie. Et là, ils craignent que maintenant qu'on n'aura plus cette source crédible, bien, que la désinformation revienne prendre toute la place.
Parce que c'est important d'avoir des médecins sur TikTok. Pourquoi? Parce que c'est une des applications qui est la plus propice à être bombardée de désinformation, disons, à cause de son algorithme qui crée carrément ce qu'on appelle des chambres d'écho.
Tant que ce n'est pas interdit, les jeunes vont être là-dessus. Il y a des gens qui vont vouloir rester sur cette plateforme-là, puis ils vont avoir besoin d'être exposés à des professionnels de la santé, pas juste moi, mais plusieurs autres, qui en ce moment vont devoir effectivement déserter.
Alors, ils disent qu'ils vont sûrement encore aller sur d'autres plateformes, alimenter ailleurs leur contenu, mais que ça n'aura jamais la même portée que ce qu'ils avaient sur TikTok.
Mais Fanny, pourtant, le ministère parlait d'une interdiction sur les appareils qui appartiennent au réseau de la santé, mais ce n'est pas le cas pour ces médecins-là. Il semble y avoir une certaine confusion.
C'est très mêlant, Marie-Christine, tu vas t'en rendre compte. Alors déjà, le docteur Nadeau-Vallée, lui, n'a pas obtenu de communiqué de la part d'un CIS. Il se fie à ce qu'ont eu ses collègues. Le docteur Daïn, lui, ça vient du CIS de Laval. Alors le communiqué, la façon dont il est interprété, ça laisse comprendre qu'ils n'ont pas le droit, peu importe l'appareil qu'ils utilisent, de produire du contenu. J'ai vérifié avec le CIS de Laval qui me dit « oui, on en fait la même lecture ». C'est une directive ministérielle qui nous dit ça. Mais le ministère, c'est pas ce qu'il dit, Marie-Christine, parce qu'effectivement, ils veulent pas que les gens utilisent TikTok sur leur téléphone qui appartient à l'État, mais autrement, l'utilisation de médias sociaux à titre personnel et sur des appareils non liés au gouvernement, ça demeure un choix personnel et assumé qui, lui, est permis. Alors, j'en ai parlé avec le CIS, je leur ai dit, vous n'êtes pas la même chose que le ministère. Ils essaient d'avoir l'information du ministère, ils n'étaient pas capables de les rejoindre aujourd'hui en cours de journée. Alors, la confusion, elle est totale. Il y a encore des questions qui sont en suspens aujourd'hui. Et là, on verra, est-ce que ces CIS-là vont revenir ou bien si on va avoir une information qui est plus uniforme, parce que là, c'est pas la même directive qui est donnée à tous les médecins dans le réseau.
C'est pas clair. Je vous laisse enquêter sur tout ça, Fanny. Merci.
Oui, merci.
La Ligue de hockey junior majeure du Québec a présenté en conférence de presse son nouveau commissaire, Mario Cecchini, qui remplacera Gilles Courteau, vous le savez maintenant, à partir du 8 mai prochain. Après 37 ans en poste, Gilles Courteau a remis sa démission le 5 mars dernier. Il avait pourtant annoncé qu'il mettrait fin à son règne de commissaire en 2024. La LHGMQ est actuellement au cœur d'allégations d'abus sexuels et d'initiation violente. Mario Cecchini espère amener un changement de culture.
Je pense qu'on se doit simplement de s'ajuster, si ce n'est que des éléments qui ont été discutés sur les bagarres, évidemment, les initiations, c'est l'évidence même. Comment on fait un changement de culture avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de conviction et avec énormément de précision et de clarté dans les directives de ce qu'on s'attend du comportement de tous et chacun. Et ça, pour moi, ça va être primordial.
Une réforme de la retraite qui ne passe pas. La France connaît une escalade de violence. On joint un journaliste sur place un peu plus tard.
Toujours sera vainqueur! Le peuple unit! Toujours sera vainqueur! Hey!
Bloquer le pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine pour manifester, est-ce que c'est de la liberté d'expression ou un méfait? C'était la question au cœur du procès des membres du groupe des Farfadas, connus pour leur opposition féroce aux mesures sanitaires. Louis-Philippe, donc, le juge a rendu sa décision ce matin et les trois accusés ont été reconnus coupables sur toute la ligne.
Voilà, Mario Roy, connu pour ses positions anti-mesures sanitaires, Steve Charland, ancien chef du groupe identitaire La Meute, et Carole Tardif, donc reconnu coupable de complot et de méfait. Je te donne le contexte, on est en mars 2021. Grande manifestation à Montréal contre les mesures sanitaires. Et là, des membres du groupe Farfada décident de se diriger, disent-ils, spontanément vers le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, bloquent plusieurs voies pendant plusieurs minutes. Au cours du procès, ils ont dit, bien, c'était notre droit, c'est une voie publique, c'est une question de liberté d'expression. On était là pour s'exprimer contre la brutalité policière qu'on aurait vécue. Eh bien, le juge a rejeté tous les arguments des accusés. Je te lis deux extraits du jugement. Tout d'abord, bien, tous les espaces publics ne se prêtent pas à l'exercice de la liberté d'expression comme le prétendent les accusés. Deuxième extrait, la perception de M. Roy est affectée par ses frustrations, sa lecture de la réalité est parfois déficiente. On peut également écouter le procureur de la Couronne qui rappelle l'impact que ça a eu sur la population.
Le juge a quand même posé plusieurs questions lors du débat, lors de la plaidoirie, lors du procès, à savoir, il avait entendu également les témoins qui avaient témoigné comme premier témoin pour la Couronne à l'effet de l'impact que ça avait eu sur les personnes de se sentir dans un endroit clos, à la noirceur, pris sans savoir qu'est-ce qu'il en était. Je pense que lorsqu'on fait l'analyse, je pense que c'est un élément qui est important.
Et Louis-Philippe, l'un des accusés, Mario Roy, a pris la parole après le jugement?
Oui, quelques minutes après le jugement, il s'est dirigé vers les journalistes, a dit qu'il irait en appel dans ce dossier, a été très virulent d'ailleurs envers les médias, le travail des médias, dit-il, dans ce dossier-là. Il dit que le juge, dans sa vision des choses, bien entendu, a fait des erreurs de droit, qu'il n'a pas bien compris le contexte. Ça, c'est son point de vue, bien évidemment. Il dit également que, en exemple, lui aussi reste souvent coincé dans le pont et dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à cause du trafic. Donc, c'est comparable que de bloquer le pont Louis-Hippolyte Lafontaine. C'était l'un de ses arguments qu'il a présenté aujourd'hui à la fin de ce procès. On peut écouter M. Roy. J'ai demandé, referiez-vous demain matin la même chose? Eh bien, voici sa réponse.
Si vous aviez à refaire le geste, vous le referiez demain matin?
Je le ferais différemment. Ça a été dit dans le procès, ça aurait été fait avec un micro pour annoncer aux gens que c'est une manifestation temporaire pour dénoncer la brutalité policière. Je l'aurais fait différemment. Ça a été le seul manquement. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on voulait écœurer le monde, c'était pas le but. Le but était de passer un message et le juge l'a pas retenu.
Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Plaisir.
On s'en va maintenant en France. Vous voyez des images tournées il y a quelques heures à peine. Mobilisation, manifestation, évidemment, en raison de ce projet de réforme de retraite. Tout de suite, je joins Pierre Tremblay, journaliste à Paris. Bonsoir, Pierre. Pierre, est-ce que vous m'entendez? Bon, Pierre ne nous entend pas. Bon, Pierre, comment ça se passe en ce moment?
Oui, je vous entends bien.
Parfait. Racontez-nous comment ça se passe en ce moment.
Eh bien, on a eu une très, très grosse soirée de manifestation. Aujourd'hui en France, à Paris devant l'Assemblée nationale, mais aussi dans d'autres villes, parce qu'aujourd'hui, le fameux projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron devait être voté. Finalement, le gouvernement a fait un passage en force. Il a fait ce qu'on appelle ici l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte est automatiquement adopté, sauf que le gouvernement engage sa responsabilité. Ça veut dire que peut-être d'ici demain, il pourrait avoir une motion de censure et le gouvernement pourrait être renversé. On pourrait repartir en élection législative. Mais en tout cas, aujourd'hui, le projet de réforme des retraites, il passe à l'Assemblée nationale, même s'il n'y a pas eu de vote des députés. Évidemment, c'est un passage en force qui ne fait pas plaisir aux opposants. Donc, il y a eu des manifestations assez violentes ce soir à Paris. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, des affrontements, des charges de police, plusieurs interpellations. Et on n'avait pas vu des manifestations violentes comme ça depuis quelque temps ici.
Donc, on parle d'interpellations, une centaine d'interpellations. Là, heureusement, c'est un peu plus calme en ce moment dans les rues de Paris.
Oui, ça s'est calmé un peu. Il y a des petits cortèges, des manifestations sauvages qui sont partis un peu dans les rues de la capitale, mais les forces de l'ordre ont réussi à disperser tout le monde. Là, ce qu'on va voir peut-être ces prochains jours, c'est de nouvelles manifestations. Il y a déjà des appels à rassemblement qui ont été lancés par les syndicats. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer dans les prochains jours.
Parfait. Merci beaucoup, Pierre Tremblay, en direct de Paris. Salut Yves.
Salut Marie-Christine.
Alors, on voit sa brasse en France. Le gouvernement, on l'a entendu, Macron, qui a choisi de faire passer cette fameuse loi sur les retraites sans vote et ça ne passe pas comme lettre à la poste.
Oui, parce qu'il a calculé qu'avec la coalition de centre-droite qui lui permet d'avoir des majorités, il n'était pas certain d'avoir la majorité. Alors, la Constitution française permet ce genre de coup de force, c'est-à-dire la loi est adoptée et, par contre, d'ici 24 heures, les membres de l'Assemblée nationale peuvent demander un vote de confiance et faire tomber le gouvernement, ce qui enclencherait des élections.
Mais est-ce que c'est comme un baillon chez nous ici? Ou...
C'est plus fort qu'un baillon parce que là, dans le baillon, on force un vote. Et donc, les députés votent de force, on met fin au débat. Là, il n'y a pas de vote.
Il n'y a même pas de vote.
Et donc, c'est ça. Et donc, on verra. Les analystes là-bas disent que c'est peu probable que ce vote ait lieu avec succès. Et donc, il pourra passer. Mais bien sûr, ça passe encore plus mal dans l'opinion publique, qui, d'après les sondages, est aux deux tiers contre la réforme, du moins dans cette version-là.
Ce genre de débat-là, ça va rebondir inévitablement chez nous à un moment ou à un autre.
Bien, c'est-à-dire que oui, et il faut voir qu'en France, l'âge de la retraite est à 62 ans. Même leurs voisins, la plupart de leurs voisins, c'est un peu plus élevé. Bon, ça varie d'un pays à l'autre. Et dans l'Union européenne, bien, il y en a il y a des contraintes de finances publiques. Et donc, le projet allait faire en sorte que l'âge allait augmenter de 3 mois, l'âge de la retraite, jusqu'en 2030, atteindre 64 ans. Pour nous, vu d'Amérique du Nord, ça semble pas effrayant, mais en France, c'est un gros truc, parce que c'est dans les mœurs. Donc, j'entendais même des journalistes français qui disaient... Bon, d'abord, il y a l'impopularité de Macron, là, mais il y a aussi le fait que la vision même du travail est différente. On le voit davantage comme une punition et non un accomplissement. Et bien sûr, il y a des travails très difficiles. Au-delà d'un certain âge, c'est encore plus difficile. Mais donc, là, en ce moment... et donc, comme tu disais, ici aussi, on va avoir ces débats-là. Aux États-Unis, je te signale que c'est près de 67... Ça s'en va vers 67 ans. Et ici, on va avoir ces débats-là parce qu'il y a plus de pensionnés et moins de gens qui travaillent.
On comprend très bien. On va suivre ça de près. Yves, merci beaucoup.
À demain. À demain.
Il y a une nouvelle qui vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle@commercialnouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon.
Bonsoir, Marie-Christine.
On l'a vu avec la tragédie à Amqui, le transport aérien des blessés est vraiment essentiel, crucial pour les accidents en région un peu plus éloignée.
Oui, puis on a eu droit aujourd'hui à un accès privilégié à un avion-hôpital. En fait, un avion-hôpital qui a servi à transporter des blessés de la tragédie d'Amqui à l'hôpital ici à Québec. Et mine de rien, Marie-Christine, par année, c'est à peu près 2000 patients qui sont transportés en avion-hôpital. Oui, de régions éloignées. Ça peut être la Basse-Côte-Nord, ça peut être le nord du Québec. Puis si vous habitez en ville, vous avez peut-être tendance à vous dire « ça m'arrivera jamais ». Ouais, mais ça pourrait être pendant votre prochaine semaine de camping sauvage ou en pleine période de chasse dans une zec quelque part.
Oui.
Voici un extrait du reportage qu'on va vous présenter.
On carbure un petit peu à l'adrénaline, je vous dirais, là, dans ces situations-là. On fait notre travail très, très rigoureusement, puis on le fait le plus rapidement possible. Là, on a une tragédie à Amqui. Ça aurait pu être sur la Basse-Côte-Nord, ça aurait pu être à Val-d'Or, ça aurait pu être dans le nord du Québec. Bref, toute région éloignée ou isolée qui n'est pas desservie là, avec un hôpital de centre tertiaire, là, rapidement, bien évidemment, c'est la courroie de transmission EVAC. C'est nous qui assurons ces évacuations-là, ces transferts-là vers les centres tertiaires de la province.
On vous en parlait hier, Leonardo Rizzuto, le fils du défunt parrain de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto, a été victime d'une tentative de meurtre en plein après-midi à Laval hier. L'incident a eu lieu au croisement des autoroutes 440 et 13. La Sûreté du Québec, d'ailleurs, demande l'aide du public pour retracer le véhicule du suspect. Pour en discuter, je suis en compagnie de Daniel Renaud, journaliste aux affaires criminelles pour la presse. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir.
D'abord, il faut comprendre qui est Leonardo Rizzuto, qui est-il et quelle place il occupe dans l'organigramme.
Bon. Leonardo Rizzuto est le fils cadet de Vito Rizzuto, le seul fils encore vivant parce que son grand frère, Nick, avait été assassiné en décembre 2009. Et actuellement, les policiers le considèrent comme un des chefs du clan sicilien de la mafia montréalaise. La mafia à Montréal est composée de différents clans, la plupart calabrais, Mais le clan le plus fort actuellement, Marie-Christine, c'est encore, même s'il a perdu des plumes au cours des dernières années, c'est encore le clan des Siciliens. Et il est considéré par la police comme un des chefs de ce clan-là.
Mais le crime organisé, Daniel, a quand même changé au cours des dernières années. C'est plus pyramidal.
Non, mais à l'époque de Vito Rizzuto, le père de Leonardo, c'était pyramidal. Bon, mais Vito Rizzuto est décédé de façon naturelle en 2013. Depuis ce temps-là, c'est cellulaire, le crime organisé, Marie-Christine, parce qu'on ne parle plus vraiment de mafia maintenant, on doit parler de crime organisé. Pourquoi?
Qu'est-ce que parce tu veux que... dire quand tu dis c'est cellulaire? C'est des groupes qui travaillent...
C'est plus pyramidal, okay. C'est plus... l'argent ou la criminalité va pas monter jusqu'en haut, il n'y a pas un décideur en haut. C'est différentes cellules, dont certaines sont plus importantes que d'autres, plus influentes que d'autres, dont les Hells Angels. Et la mafia a besoin des Hells Angels, qui sont maintenant plus forts, pour poursuivre ses activités. Et actuellement, c'est ce qu'on a. C'est un amalgame de différents groupes criminels un peu mélangés. Et les différentes factions criminelles ne fonctionnent plus en silo, mais s'entraident et ont des opportunités d'affaires entre elles.
Mais cet incident-là, là, pendant qu'on voit les images, est-ce que c'est le début d'une nouvelle guerre de pouvoir, selon toi?
C'est pas exclu. Est-ce que c'est la continuité d'une guerre de pouvoir? Est-ce que c'est la suite de la guerre de pouvoir qui avait été amorcée en 2009-2010, au cours de laquelle la famille Rizzuto avait été passablement étriée? Est-ce que c'est une nouvelle guerre de pouvoir? Mais vous savez, Marie-Christine, c'est pas un parrain. Il y en a plus de parrain. Et Leonardo Rizzuto, ce n'est pas son père, Vito Rizzuto. C'est même quelqu'un qui est considéré plus davantage comme un symbole maintenant.
Parce que le nom Rizzuto doit avoir une influence encore.
Est-ce que hier, on a voulu faire disparaître à tout jamais le nom des Rizzuto? Est-ce que c'est un conflit entre différents groupes? Est-ce que c'est un règlement de compte qui est chirurgical, qui est sporadique? Mais une chose est sûre, pour s'en prendre à un individu dont le nom de famille est Rizzuto, il faut un feu vert, il faut avoir des reins solides. Et pour le moment, les policiers émettent plusieurs hypothèses, mais ça va être plus clair pour eux dans les prochains jours quand des sources vont commencer à parler.
Oui, parce qu'il va y avoir enquête, justement. C'est vraiment le modus operandi, le mode opératoire, c'est vraiment bien connu des policiers. Peut-être qu'un GPS, qui sait, qui sera trouvé en...
Moi, j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'il y ait eu un GPS collé sur sa voiture parce que c'est la façon de faire maintenant des tueurs à gages déjà depuis quelques années. Ça semble être l'œuvre de membres de gangs, membres de gangs de rue qui, bien souvent, depuis des années, est la main-d'œuvre des membres influents du crime organisé montréalais.
Il va falloir surveiller éventuellement peut-être des répliques aussi. Daniel Renaud, merci beaucoup.
Il y en aura une, assurément.
Merci.
Merci.
Toute une transaction dans le monde du web. La société de financement ECP fait l'acquisition de l'entreprise montréalaise MindGeek, propriétaire de Pornhub. Dans un communiqué de presse, ECP indique que MindGeek s'engage dans la réalisation de contenu fait par et pour des adultes consentants. MindGeek est plongé depuis décembre 2020 dans une controverse. Une enquête du New York Times a révélé que Pornhub hébergeait des vidéos d'agressions sexuelles, parfois commises contre des jeunes mineurs. Alimentation Couche-Tard achète plus de 2000 commerces de détail de la pétrolière Total Energy en Europe. Les marchés sont situés en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, aussi au Luxembourg. La transaction est évaluée à 4,5 milliards de dollars canadiens. Alimentation Couche-Tard est présente dans 24 pays et territoires et possède plus de 14 300 magasins. Maintenant, trois personnes sont décédées dans cette violente collision entre un poids lourd et une mini-fourgonnette survenue hier en Beauce. Tout de suite, pour en parler, je joins Jacques Alain. Jacques Alain, donc, on connaît maintenant l'identité des trois victimes.
Oui, tout à fait, Marie-Christine. Il s'agit d'Henrik Asselin, 42 ans, ainsi que ses enfants Nathan, 12 ans, et Jolène, 4 ans. Leur mère et un autre de leurs enfants sont toujours à l'hôpital pour traiter des blessures graves, et l'un d'entre eux est toujours dans un état critique. Le camion de 53 pieds qu'ils ont frappé appartenait au centre de formation en transport de Charlebourg. Il y avait donc un enseignant et quatre étudiants à son bord. Heureusement, eux s'en tirent indemnes. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est la mini-fourgonnette qui a dévié de sa voie pour percuter le camion.
Aux lumières de l'enquête, on peut déjà exclure soit la température, soit
les conditions routières. Donc, il demeure évidemment un problème mécanique aurait pu survenir. Le geste volontaire qui doit être quand même étudié, la mauvaise manœuvre ou encore l'endormissement ou la distraction.
Évidemment, Jacqueline, la petite municipalité d'Attitoc est sous le choc présentement, là.
Oui, bien, c'est le cas de le dire. C'est une toute petite communauté ici. Et la famille Asselin ont une ferme laitière là, dans un rang tout près d'ici. Le maire a d'ailleurs publié sur sa page Facebook pour inviter les habitants à se recueillir ce soir et bien sûr pour offrir ses sympathies à la famille. Je me suis rendu à la ferme familiale ce matin. J'ai été accueilli par la famille des victimes qui s'y recueillait, oui, pour être en famille, mais aussi parce que, bien sûr, il faut s'occuper des tâches de la ferme. Là. Elle n'arrête pas malgré le drame qui s'est passé. J'ai aussi rencontré une dame à Adstock qui nous explique bien le sentiment qui règne ici. On l'écoute.
On est une petite municipalité qui se tient beaucoup, puis c'est vraiment un drame qu'on ne peut pas expliquer. Là. On essaie de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre, je pense.
C'est des gens que vous connaissiez personnellement?
Je vais te dire une chose. Moi, anciennement, j'étais à côté de deux fermes, là, puis on les connaît. C'est des nouveaux arrivants dans la région. Mais quand même de la Beauce tout près, là, c'est pas du monde vraiment de l'extérieur, mais une belle petite famille. Je l'ai vu la semaine dernière justement sur son tracteur.
Et il y a de l'aide aussi psychologique qui a été offerte aux camarades de classe des enfants?
Oui, parce que l'ambiance était lourde à l'école primaire de la petite municipalité ici. Des pleurs, de l'incompréhension. Les élèves vivent énormément d'émotions. Mais ce qu'on m'expliquait, c'est qu'on est malheureusement habitué à ce genre de choses dans les centres de services scolaires et qu'un protocole d'aide psychologique est en place pour aider tous ceux qui ont côtoyé les deux enfants.
On comprend. Merci beaucoup, Jacques-Alain.
Je vous en prie.
Maintenant, comment le nouveau commissaire va redorer l'image de la Ligue de hockey junior majeur du Québec? On lui pose la question. Au retour, à tout de suite. Je reçois ce soir le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Mario Cecchini, est avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
D'abord, félicitations pour votre nouveau mandat. On va quand même se le dire, c'est tout un mandat. La réputation du hockey junior a été mise à mal au cours des derniers mois. Dites-nous, à quel genre de commissaire les clubs de la LHJMQ auront-ils droit?
D'abord, un commissaire très focus sur les défis à abattre, très collaboratif aussi avec eux, à bien choisir les priorités. Et puis ensuite, un commissaire qui va travailler de façon acharnée pour s'assurer que la Ligue rayonne, qu'on va partager les bons coups. On a beaucoup parlé de choses difficiles depuis quelques semaines, mais la Ligue fait aussi de très belles choses qu'il ne faut pas oublier. Alors, il va y avoir un rayonnement, je pense, puis on va redonner cette Ligue-là avec fierté aux jeunes puis aux parents.
Comment vous avez réagi personnellement quand vous avez entendu tous les témoignages concernant les initiations violentes?
Comme tout le monde, avec des haut-le-cœur, avec dégoût, avec rage, avec... On est tous... Moi, j'ai deux filles de 28 et 24 ans, une qui a fait du sport de haut niveau. J'aurais pas du tout aimé ça, entendre ça.
Comment vous allez faire pour changer toute la culture autour de ça?
Bien, d'abord, je vous surprendrai pas, je pense, en disant que c'est pas moi qui va faire ça, c'est toute l'équipe. C'est vraiment un travail parce que je me
suis... Mais comment vous allez-vous aider à ça?
Bien, je pense qu'on va être très clair sur les messages. On va les dire fréquemment. On va être clair sur les directives. On va être punitif. On va être clair sur les sanctions. Puis ça va être à déterminer. C'est pas encore... Tu sais, il va falloir les conversations avec tout le monde. Mais il faut que les sanctions soient en ligne avec les choses qui sont faites, qui n'ont pas de bon sens.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, des bagarres au hockey?
Ça n'a pas sa place. Je pense que la Ligue a déjà dit ça aussi. Les bagarres, c'est... Déjà, d'abord, avec tout ce qui a été dit, il faut se rappeler que depuis 10 ans, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. On parle de maintenant 87-88 des matchs où il n'y a pas de bagarres. Il en reste trop. On est d'accord. Mais je veux qu'on reconnaisse le chemin. Parce que quand on parle d'un changement de culture, c'est ça. Ça ne se fera pas non plus entre le vendredi puis le lundi.
Du jour au lendemain.
Mais là, on va légiférer. Parce que si on ne le fait pas, la ministre, elle va le faire. Oui. Mme Charest. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on n'est pas très loin de sa position, je pense. J'ai eu la chance d'être invité par elle. Donc, on va avoir une conversation à la fin du mois.
68 parties. Est-ce que c'est trop?
Bonne question. J'ai pas eu le temps de me pencher sur ça, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Je sais qu'en 18-19, avec une firme, il y avait une étude qui avait été faite. La conclusion est qu'ils sont restés à 68. Moi, je suis du genre, justement, à être ouvert sur ça puis à tout revoir. Mais pour le moment, il ne semble pas avoir d'urgence sur ça.
Mais comment améliorer le quotidien des joueurs étudiants? Parce que quand même, la priorité, ça reste les études.
100 % sur 380 des 400 joueurs. Mm-hmm. Mais en fait, pour les 400, mais il y en a seulement 20 qui vont être repêchés. Oui. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il n'y a plus de match en début de semaine ou presque pas pour que les joueurs aient beaucoup de temps. Dans ce qu'on appelle un fonds d'équilibre, exemple, il y a de l'argent maintenant, les joueurs, durant les séries, quand c'est 1000 km et plus, peuvent voyager par avion.
Ouais.
C'est ça, en place de faire deux jours. Il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été faites là-dessus.
Bien, il me reste à vous souhaiter un bon mandat. Vous rentrez en poste officiellement en poste le 8 mai.
8 mai.
Oui, bien, d'ici là, prenez un peu de temps pour vous parce que vous allez être occupé.
Alouette jusqu'au 6 avril.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, M. Tchekini.
Merci.
Maintenant, on parlait hier de cette publicité lancée pour sensibiliser les Québécois au recul du français. C'est une tendance qui frappe aussi les milieux collégiales et universitaires, notamment c'est le cas du matériel de cours qui est donné aux étudiants et de la langue dans laquelle les chercheurs publient leurs travaux. Étienne Fortin-Gauthier.
C'est que oui, on privilégie les ressources pédagogiques en français si tant est qu'elles soient disponibles.
La majorité des publications scientifiques sont en anglais.
L'étude qui a été dévoilée aujourd'hui révèle qu'une petite partie seulement de la recherche qui se fait au Canada est en français et que de plus en plus, dans les cégeps et les universités, bien, les professeurs proposent des manuels qui sont en anglais.
Une majorité des contributions savantes des chercheurs québécois dans les établissements francophones qui sont en anglais. Si je leur dis non, je veux qu'ils aient la connaissance à jour, fait que je vais leur donner des documents en anglais, oui, mais là, ça crée une iniquité parce que la maîtrise de l'anglais, c'est pas une condition d'admission pour entrer au cégep ou à l'université francophone. Et là, on leur oblige à maîtriser l'anglais pour avoir accès. Fait qu'on a un dilemme comme société à se poser.
Parce que la recherche et l'enseignement français au collégial à l'université font partie de notre culture, de notre identité.
Mais justement, quand on dit que des professeurs, des chercheurs produisent plus en anglais ou proposent plus de manuels en anglais, c'est vos membres, en quelque sorte, qui font ça?
Oui, mais ça devient une obligation parce que l'écosystème de la recherche au Québec, bien, c'est en anglais. C'est international. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on se positionne? Ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que l'écosystème en question, lui, permet le français. Et c'est un peu ça, le but de la recherche et des actions à venir.
Et donc, face au bulldozer dans l'anglais, c'est quoi les solutions que vous proposez?
Il y a pas de solution simple. On émet des pistes de réflexion. On pourrait, par exemple, dans des revues bilingues canadiennes, donner le financement pour que toutes les revues traduisent systématiquement tous les articles dans une langue et dans l'autre. On pourrait faire la même chose avec les livres en édition savante. On pourrait financer institutionnellement que les profs aient du temps dégagé pour eux-mêmes produire les versions françaises de ces ouvrages-là. C'est des choses qu'on pourrait examiner éventuellement.
Benoît Dubreuil, le nouveau et le premier commissaire à la langue française au Québec, assiste aux discussions, il écoute attentivement ce qui se dit et il est inquiet par le recul du français dans les universités et les cégeps.
Les gens, on sait, qui passent par l'enseignement en anglais ont plus de probabilités ensuite d'utiliser l'anglais dans différentes circonstances. On sait aussi que l'enseignement supérieur joue aujourd'hui un rôle important dans l'intégration des immigrants également, de plus en plus. Donc, il faut se questionner, est-ce que notre système aujourd'hui est vraiment structuré d'une manière optimale pour le français?
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill.
Et justement, sur la pub du faucon pèlerin, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je l'avais trouvé très drôle et ensuite, j'ai regardé que les commentaires étaient mitigés, mais je pense que voilà, comme toutes les publicités, les gens peuvent avoir des appréciations différentes. Je pense qu'on a une dynamique en ce moment qui est très bonne, justement, là, pour ramener la situation du français dans le débat public. Et puis, j'invite évidemment tous les Québécois à participer à ce débat-là.
Michel, on va aller en Alberta. Il y a deux policiers qui ont été tués.
Oui, en service la nuit dernière, alors qu'en fait, ils répondaient à un appel pour une dispute familiale. Ça s'est passé à Edmonton. Les agents Travis Jordan, 35 ans, et Brett Ryan, 30 ans, ont été abattus par un individu. Dès qu'ils sont arrivés là, sur les lieux, ils n'ont même pas eu le temps d'utiliser leurs armes. Le suspect, qui, selon la CBC, n'aurait que 16 ans, se serait ensuite enlevé la vie, oui. Il y a une jeune femme qui se trouvait à l'hôpital avec des blessures graves. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a provoqué une onde de choc, oui, là-bas, mais également partout au pays, à travers les corps policiers du pays.
On comprend. Maintenant, ce soir, au Thémateur, il sera question du déclin du français.
Et plus particulièrement de la publicité.
La fameuse publicité. Moi, je la trouve drôle, moi.
Ça divise. C'est ça qui est magnifique avec cette publicité-là. Elle vise à sensibiliser la population au déclin du français. Je disais qu'elle fait réagir. Bien, notre question ce soir, est-ce que vous trouvez que c'est un bon coup ou un mauvais coup du ministère de la langue française? On va en débattre avec Geneviève Peterson, avec Antonine Iaccarini, également Déborah Cherenfant. Et notre débatteuse invitée, la spécialiste en éducation, Claudine Potvin. Ça fait gentil chez toi, ça?
Ça chill chez nous. Merci, Michel.
Salut.
Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17 h.